1976, palais de justice de San Francisco.
Monsieur Hanspach, la compagnie Parker Brothers vous accuse de plagiat et demande la cessation immédiate de la commercialisation de votre anti-monopoly.
Monsieur le juge, suite à ces accusations, je tiens moi-même à assigner en justice Parker Brothers d'éditer et de vendre un jeu honteusement copié.
Expliquez-vous, monsieur Hanspach.
Charles Darrow, le prétendu inventeur du Monopoly, ainsi que Parker Brothers, se sont enrichis en détournant le jeu de la véritable créatrice du Monopoly, Madame Elizabeth Magee. À elle seule devrait revenir le monopole de ce jeu. Que justice lui soit faite.
Ralph Hatzpah, un professeur d'économie, vient de faire éclater la vérité au grand jour. Non. Le Monopoly n'a pas été inventé par Charles Darrow, mais bien par Elizabeth Magee. Je vous raconte aujourd'hui la folle histoire du Monopoly. L'histoire d'un jeu anticapitaliste créé par une féministe dont l'idée a été volée puis détournée par un homme. L'histoire d'un jeu dont le monopole fait la fortune des uns et la ruine des autres.
Donc comme je vous le disais, faites des choses que vous aimez. Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ?
Je ne sais pas encore. J'hésite.
Je veux acheter une fusée aux Russes pour aller dans l'espace.
N'aie pas peur de l'avenir. Il faut se construire. L'expérience ne s'achète pas et ne se transmet pas.
Bienvenue sur le podcast Il était une fois l'entrepreneur, le seul podcast business en France qui raconte les histoires comme une série tous les mardis. Je m'appelle Laurent Brouat, je suis le fondateur de Inspire Media. Et chez Inspire Media, en plus de raconter des histoires, nous aidons les sociétés B2B à lancer leur podcast. Et surtout, n'oubliez pas de vous inscrire à nos spectacles dans toute la France, Inspire sur scène, que vous pourrez retrouver en descriptif de l'épisode.
Ici, il y a le patron qui arrive. Sors le nez de ton livre. C'est quoi d'ailleurs ?
Progress and Poverty d'Henri Georges. C'est sur les taxes foncières et le partage des richesses. C'est passionnant. Au fait, tu viens me voir jouer ce soir ?
Elizabeth Magee est née en 1886 dans l'Illinois, un an après la guerre de sécession. Très proche de son père, un anti-monopoliste et abolitionniste, la petite Lizzie baigne dans la politique dès son plus jeune âge. Curieuse et particulièrement intelligente, Lizzie est une vraie rebelle. Le jour, elle exerce le métier de secrétaire et scénographe. Et la nuit, sur de petites scènes, elle déclame les sketchs comiques qu'elle écrit.
Taxe unique, valeur foncière, blablabla. Bla bla. Voyons, Lizzie, tu voudrais pas plutôt chercher à te marier ?
Mais pourquoi faire ? Qu'un homme ait le monopole de ma vie ? Hors de question ! D'ailleurs, en parlant monopole, je suis en train de vous concocter, chers amis, un jeu éducatif pour démontrer les effets néfastes du capitalisme.
Le livre d'Henri Georges sous le bras, Lizzie passe ses soirées à élaborer un jeu pour faire comprendre aux gens la nature antisociale du monopole. Elle fabrique deux carnets de règles de jeu pour accompagner le plateau. Un livret avec des règles anti-monopole pour récompenser tous les joueurs lorsque la richesse est produite et un carnet de règles capitaliste pour écraser ses adversaires. 1904, Illinois, Bureau fédéral.
Bonjour, j'ai créé un jeu, le Landlord's Game. Je voudrais déposer une demande de brevet.
Tout est en ordre. Votre numéro de dépôt est le numéro 748-626.
Elizabeth a une trentaine d'années et fait partie des rares femmes parmi les demandeurs de brevets. Le Landlord's Game se répand très vite dans les salons des intellectuels de gauche et sur plusieurs campus universitaires, dont Harvard et l'Université Columbia.
Oh non, la prison. Qui m'aide à payer mes dettes ? Votons pour le pot commun.
Hors de question, cher ami. À mon tour. Chers amis, je crois que j'ai gagné. Je suis le super monopoleur.
À dire qu'on aurait pu gagner tous ensemble.
Fort de son succès pendant plusieurs années, la planche de jeu arrive à Atlantic City en 1932. Une ville qui va changer son destin et plonger le nom d'Elizabeth Magee dans l'oubli.
Une crise presque sans précédent s'est abattue sur le monde.
Je suis désolé, Esther. Il n'y aura que du pain ce soir. Plus personne ne peut me payer pour réparer les radiateurs. J'aurais tellement voulu mieux pour notre enfant.
En 1932, la Grande Dépression frappe les États-Unis. Charles Darrow, un ouvrier de Philadelphie, tente comme il peut de subvenir aux besoins de sa famille. Sa femme est enceinte et il n'a plus de travail. Un soir, alors qu'il tente d'oublier son malheur, ses amis Charles et Olive Todd lui font découvrir un jeu qui va transformer sa vie.
Esther, je crois que j'ai une idée. Tu sais, le jeu du Monopole, le jeu qu'on a fait hier avec les Todd, je vais l'améliorer. Je vais changer un peu les règles, créer de nouvelles cartes.
Trouve-toi un travail, plutôt. Il n'y a plus de charbon pour le poêle et le bébé crève de froid.
Mais Charles ne lâche pas son idée. Le jeu du Monopole, qui n'est autre que le Landlord's Games, est entre ses mains. Il confectionne de nouveaux jetons, des titres de propriété et ajoute des prix. Puis, il nomme les rues d'après les rues d'Atlantic City en souvenir de ses vacances d'été pendant son enfance. La légende est en marche.
Tu sais quoi, Esther ? Je vais leur prouver à Parker Brothers qu'ils ont fait une connerie. Ils ne veulent pas vendre mon jeu car il serait trop compliqué à comprendre. Les crétins !
Charles ne se décourage pas. En 1934, il fait le tour des magasins de jouets et des boutiques de jeux pour vendre son Monopoly. Et devant le succès commercial, l'éditeur de jeux de société Parker Brothers admet son erreur et rappelle Charles pour lui proposer la commercialisation de son jeu. Le Monopoly est breveté en 1935. En 1936, Parker Brothers rachète les droits originaux à Elizabeth pour une bouchée de pain, $500 et pas de droit d'auteur.
L'argent ne m'intéresse pas. Si mon jeu peut éduquer le maximum de personnes, le reste n'a pas d'importance.
How did I make it big? I know how. To play the game, I buy real estate, hotels, fancy cars, even railroads. And I take chances. To make it big, you've got to play the game. My Monopoly game.
Le Monopoly devient un best-seller et se vend à plus de 2 millions d'exemplaires en 2 ans. Charles est maintenant un homme riche. Il s'achète une immense propriété agricole en Pennsylvanie. Et Parker Brothers est sauvé in extremis de la faillite. L'histoire de Charles Darrow, l'ouvrier pauvre qui invente un jeu de société sur sa table de cuisine pendant la Grande Dépression, devient alors une légende. Une légende soigneusement imprimée dans chaque boîte de Monopoly. Le nom d'Elizabeth Maggie, lui, n'apparaît nulle part. Il faut donc attendre l'année 1976 pour voir son nom ressurgir à la surface.
Calme-toi, Marc. Et pour une fois, c'est ton frère qui gagne. Enfin, si on peut dire gagner, quand il s'agit de ruiner les autres.
Ralph Anspar, un professeur d'économie à l'université de San Francisco, aime passer du temps à jouer avec ses enfants. Leur jeu favori ? Le Monopoly. Alors qu'un matin, pendant le petit déjeuner, il entend ses enfants rire de la ruine de leur adversaire durant une partie, Ralph s'interroge. Comment leur faire comprendre que l'entraide et la coopération créeraient une meilleure société que le monopole des richesses ?
Les enfants, venez me donner un coup de main. Je vous présente l'anti-monopoly. Tiens, Marc, tu vas dessiner les cartes, et toi, Will, tu fabriques les billets de banque.
Après avoir testé le jeu avec ses enfants et ses étudiants, Ralph décide de lancer la commercialisation de son jeu. Sauf que tout ne se passe pas exactement comme prévu.
Monsieur Anspach, la compagnie Parker Brothers vous accuse de plagiat et demande la cessation immédiate de la commercialisation de votre anti-monopoly.
Ralph Anspach se lance alors dans une lutte judiciaire à partir de 1976. Hors de question de laisser Parker Brothers gagner. et c'est en faisant des recherches pour assurer sa défense qu'il découvre que son propre jeu a déjà existé sous une autre forme.
Monsieur le juge, je voudrais mettre en lumière le fait que le Monopoly est une copie du Landlord's Game, un jeu créé par Madame Elizabeth Magee.
Pendant 8 ans, Ralph va se défendre. Le mensonge Monopoly commence à s'ébruiter. Des dizaines de témoins viennent à la barre, oui. En 1910, il jouait déjà à acheter et à hypothéquer des titres de propriété et des hôtels avec un arrêt sur la caisse prison. Une certaine Madame Dorothea raconte même avoir été là le soir où Charles Darrow a découvert le jeu du Landlord's Game. Et c'est ainsi qu'en 1986, la Cour suprême des États-Unis finit par donner raison à Ralph Ansbach. Il gagne le droit de produire son anti-Monopoly.
To end all finals, this was a fantastic game of championship Monopoly between the four best players in the world. Richard Marinaccio from the US.
Le 18 mars 2020, le Monopoly célèbre ses 85 ans. À Las Vegas, autour de la table, 254 joueurs s'affrontent pendant 90 minutes pour la finale du Monopoly World Championship.
$400 pour Broadwalk et je rachète Pacific Avenue pour $500.
Des milliers de tournois sont organisés chaque année aux États-Unis, sponsorisés par Hasbro, qui a racheté Parker Brothers en 1991. Le Monopoly est devenu le jeu de plateau le plus vendu au monde. Il compte plus d'un milliard de joueurs répartis dans 114 pays et plus de 200 versions différentes éditées en 43 langues. Encore aujourd'hui, alors que la vérité sur le Monopoly a été révélée, le mythe de Charles Darrow persiste. Une histoire comme on les aime aux États-Unis, celle de l'ouvrier pauvre, devenu riche. Quant à Elizabeth, elle meurt veuve et seule, écœurée que son jeu anticapitaliste soit devenu un emblème du capitalisme. Le succès a de nombreux pères, dit un adage, mais on en exclut souvent les mères. Mais ça, c'est une autre histoire. Merci encore. Mais oui, faut le dire, hein, parce que là, franchement, c'est de la fidélité, c'est de l'amour, c'est beaucoup de choses pour faire ces épisodes avec vous. Et c'est précieux que vous nous aidiez, que vous parliez de ces épisodes, car c'est beaucoup de travail, de la documentation, de l'écriture, du travail d'acteur, bref. Merci à Thibaut Viotte, Sarah Brevet pour l'écriture, Morgane Bouchiba pour le son et tous les acteurs qui nous aident pour construire ces beaux épisodes. Merci à tous et à bientôt.